Bonjour Sandro Gozzi.
Bonjour.
Comme le prévoyaient les sondages, c'est la coalition des droites emmenée par Giorgia Meloni et son parti Fratelli d'Italia qui arrive largement en tête des élections législatives qui ont eu lieu hier en Italie avec un peu plus de 44% des voix. Est-ce que le terme de séisme qui est assez couramment employé ce matin dans la presse française vous semble approprié?
Non, je crois que c'est sans doute un fait historique. Important et inquiétant que un mouvement d'extrême droite, parce que c'est de l'extrême droite, Giorgia Meloni, post-fasciste, arrive au pouvoir.
Et alors, vous dites post-fasciste, certains vont jusqu'à dire néo-fasciste.
Non, je dirais pas ça, parce qu'elle n'a pas un programme, disons, de restaurer les fascismes en Italie. Les fascistes ne vont pas revenir en Italie, mais elle est obscurantiste, réactionnaire sur l'état de droit, sur les valeurs fondamentales. Elle considère la communauté LGBT et LGBTIQ comme un lobby contre la famille traditionnelle. Elle veut restreindre les droits à l'avortement. Elle a des positions réactionnaires obscurantistes typiques d'une certaine extrême droite. C'est pas un séisme. La majorité qu'elle a obtenue, elle est moins grande, moins solide de ce qu'elle l'ont pensé. Elle va dépendre beaucoup de ses alliés Berlusconi et Salvini. Salvini est l'allié de Marine Le Pen, qui font un mauvais score parce qu'ils vont... Ils perdent la plus de la deux tiers des voix, par exemple, Salvini perd à la faveur de Meloni, mais ils vont être déterminants, décisifs pour lui permettre de gouverner. Donc, sans doute une mauvaise nouvelle. Il faut voir combien sera solide cette nouvelle majorité.
Oui. Quels sont les éléments, vous avez évoqué un certain nombre de points, mais quels sont les éléments ou les points précis du programme de Giorgia Meloni qui vous inquiètent aujourd'hui?
Giorgia Meloni a une force qui aujourd'hui c'est une raison d'inquiétude. La force de Giorgia Meloni c'est qu'elle a été toujours cohérente. Dans le sens que elle n'a jamais participé à des gouvernements d'unité nationale.
Elle a toujours... C'est ce qui explique aussi son succès aujourd'hui.
Absolument. C'est la vraie clé de son succès.
Une forme de virginité politique en quelque sorte.
Elle a fait oublier qu'elle était ministre de Berlusconi en 2008.
Pendant 3 ans.
Elle a été très habile à faire oublier ça, à se présenter comme nouvelle, à dire j'ai jamais participé à l'unité nationale et je suis cohérente. Les problèmes, c'est sa cohérence. Parce que si elle fait ce qu'elle a toujours dit, du point de vue de l'état de droit et des libertés fondamentales, gros problème à Rome et aussi à Strasbourg, à Bruxelles. Elle a toujours été farouchement anti-européenne et farouchement anti-française. Donc, si elle applique ce qu'elle a dit, pour elle, la France en Italie est en train de coloniser économiquement l'Italie. Pour elle, l'Union européenne doit revenir à une Europe des nations dans laquelle chacun doit récupérer les droits de veto partout et dans laquelle les lois italiennes doivent prévaloir sur les lois européennes, donc c'est la destruction de l'Union européenne. Est-ce qu'elle va être cohérente avec elle-même ou est-ce qu'elle va pas être cohérente avec elle-même pour pouvoir travailler de façon pragmatique au niveau européen? C'est ça la grande question.
Un certain nombre de grands sujets comme l'Europe, comme l'OTAN, comme la guerre en Ukraine aujourd'hui, est-ce que Giorgia Meloni n'est pas finalement plus proche de la politique italienne qui est menée depuis plusieurs années que ne l'était par exemple Matteo Salvini?
Alors, là, sans doute, mais c'est pas difficile. Salvini s'est baladé à Moscou, à Rome et au Parlement européen de Strasbourg avec les t-shirts de Poutine. Par exemple, moi, j'étais élu en France, il disait, c'est comme si moi j'allais avec Poutine. Quand moi, je suis rentré dans la liste d'Emmanuel Macron. Donc, pour vous dire combien Matteo Salvini se considère proche de Poutine. Donc, c'est pas difficile. Giorgia Meloni est une politicienne habile. Elle a changé des lignes vis-à-vis de la Russie. Dans son livre, elle regarde la Russie comme un modèle pour l'Europe. Et le 24 février, habilement, elle change de position. Elle se met du côté de l'OTAN. Ceci dit, au niveau européen, elle est très, très éloignée des positions de la France, de l'Allemagne et des institutions européennes.
Vous avez dit qu'elle était qu'elle a changé, mais qu'elle était autrefois très anti-Europe et aussi très anti-France, anti-française. Sur quoi portaient ces griefs faits à la France?
Comme je vous le dis, elle considère les investissements économiques français en Italie, dans le contexte, je le rappelle, du marché unique européen, elle est considérée comme une colonisation. Elle considère que la France agit toujours au détriment des intérêts économiques et politiques de l'Italie. Elle a attaqué à plusieurs reprises Emmanuel Macron. Est-ce qu'elle va faire ce qu'elle a dit? Non, je ne crois pas, parce que sinon elle devrait ouvrir un conflit permanent avec Paris. Elle n'a pas intérêt. Elle aura une attitude plutôt pragmatique. Elle va essayer de trouver des points de convergence, parce que l'Italie et la France sont deux grands pays qui sont obligés, je dirais, de travailler ensemble. Mais ça sera sans doute un grand changement vu d'ici, passer de Mario Draghi à Giorgia Meloni.
Vous l'avez évoqué, Sandro Gozzi, mais la question de la durée de vie de cette coalition va se poser assez rapidement, parce que en effet, elle a des alliés qui sont affaiblis dans les urnes, le mouvement de Silvio Berlusconi, Forza Italia, et la Ligue de Matteo Salvini, mais ce sont deux personnalités expérimentées et avec lesquelles il y a des désaccords assez importants sur des sujets importants aussi.
Bah, sans doute sur la Russie, il y a deux positions totalement divergentes, parce que d'un côté, comme je disais, Giorgia Meloni s'est repositionnée le 24 février et du côté de l'OTAN, mais Berlusconi, il a dit il y a trois jours qu'après tout, Poutine, il voulait remplacer Zelensky par des gens plus raisonnables. C'est ça, c'est comme ça que Berlusconi a expliqué. Ça peut paraître ubuesque, mais c'est de la réalité. C'est la seule explication que Berlusconi a dit, a donné de l'agression de Poutine à l'Ukraine. Matteo Salvini, on le sait, il a des liens politiques. Il y a une enquête pour voir s'il a des liens aussi prouvés financiers. Il y a une enquête en cours avec les partis de Poutine, avec la Russie. Et ce sont, comme vous dites, deux personnalités expérimentées qui ont des sièges, parce que dans l'accord de coalition, ont plus de sièges par rapport aux voix qu'ils ont obtenues, surtout dans la partie majoritaire, et qui seront des clients très difficiles. Donc, je crois que la première échéance que je vous conseille de noter dans votre agenda, ça sera 2024, élection européenne. Je crois que là, ça sera un premier passage, un premier test très, très délicat pour cette majorité qui n'est pas solide. Et ça sera aussi les moments où cette nouvelle liste, qui, il y a un mois, n'existait pas, délibérément inspirée des Renaissance et Renew, que j'ai contribué à créer, qui est la seule nouvelle, bonne nouvelle pour moi, la seule facteur de nouveauté en Italie. Je crois qu'elle pourra doubler ses scores et pourra organiser la véritable alternative à l'extrême droite.
Les propos de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, que vous avez d'ailleurs déploré, pour ne pas dire condamné même.
Ah, elle a raté une occasion pour se taire.
Voilà, alors je rappelle qu'elle a mis en garde les Italiens contre l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Est-ce que vous pensez que ça a pu donner une forme de coup de pouce à Giorgia Meloni?
Alors, Giorgia Meloni, sans doute, a bénéficié énormément d'un discours très anti-européen. Anti-européen, je l'ai dit, anti-Paris, anti-Berlin et anti-institution européenne. Et Ursula von der Leyen a fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que d'un côté, il a dit une chose évidente, de l'autre côté, elle a dit dans un timing et d'une façon très mauvaise.
À 48 heures du scrutin.
On fait pas un procès aux intentions, on fait pas un procès à un grand pays fondateur comme l'Italie. Puis, après, il est clair, si Meloni faisait exactement ce qu'elle a dans son programme, sur l'état de droit, sur les règles européennes, sur les libertés fondamentales, sur les droits des minorités, sans doute, l'Union européenne devrait ouvrir une question d'état de droit avec l'Italie. Mais on fait pas un procès aux intentions, on attend les faits et après on les juge.
Ouais. Très rapidement, comment expliquez-vous que les leaders de l'extrême droite italienne changent tout le temps si on compare à la France où c'est la famille Le Pen qui perdure depuis maintenant des décennies?
Il n'y a pas beaucoup de dynasties en Italie. Il n'y a pas de dynasties familiales. En Italie, il y a un bloc d'électeurs actifs de plus ou moins 20% qui se déplacent selon les élections envers les pays les plus envers les mouvements les plus extrémistes et les plus populistes. C'est pour cela que les 5 étoiles 30%, la Lega 30%, maintenant Meloni 25%, c'est les mêmes électorats.
Merci Sandro Gozzi.